Bonjour à tous et toutes. Nous sommes en public pour cet enregistrement d'émission magazine touristique au musée départemental de la résistance à Vasseux en Vercors. On est en plein week-end d'animation, un week-end qui dure du vendredi 21 au samedi 22 et il y aura encore dimanche 23. Très très riche en activités et opportunités pour tous les visiteurs et visiteuses du musée. Ce magazine touristique sera diffusé les lundis 24, mais là on est en plein bouillonnement avec tout ce qui se passe au musée de la Résistance et on a avec nous Pierre-Louis Fillet qui est directeur du musée et historien. Bonjour.
Bonjour.
Et on a avec nous Connie Becker qui est curatrice de l'exposition Libre Résistance qui est possible de voir tous les jours aujourd'hui et des autres jours aux horaires d'ouverture du musée. On en parlera de manière plus approfondie tout à l'heure. Pour le moment, je vous donne les bienvenus et je remercie tous les partenaires qui permettent l'enregistrement de cette émission. Nous allons avoir un échange avec Pierre-Louis Fillet et Connie Becker qui vont nous expliquer tout ce qui se passe cet été au musée de la Résistance et puis voir quelles sont les raisons pour venir visiter ces lieux et en savoir un peu plus sur la Résistance, mais pas seulement. Après, on aura une chronique touristique qui nous amènera au jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Donc ça nous permettra de nous réfléchir à cette journée très chaude. On poursuivra avec toutes les activités pour la soirée du lundi et puis pour les mardis. On aura un autre moment d'échange avec Pierre-Louis Fillet et puis on va terminer sur l'annonce des activités pour mercredi et en particulier on va faire les points sur le festival Texte en l'air qui nous soutient et qui commence mercredi et qui propose des très nombreuses activités en théâtre et en déclamation, en poésie, en tout ce qui est autour des mots. Et puis on aura un deuxième respiration sonore touristique où on ira à Rochechinard pour la maison mémoire. Donc, sans plus tarder, on va commencer par les activités qui vous ont proposées pour les lundis 24 juillet. Et nous commençons par des propositions un peu aventureuses. Et nous commençons par la spéléologie et le rendez-vous est à Saint-Martin-en-Vercors. Sorti à la demi-journée dans la grotte d'initiation du Vercors, c'est ludique, c'est pédagogique et c'est une cavité riche en paysages souterrains qui sera adaptée aux plus petits comme aux plus grands. C'est une activité proposée aux enfants dès l'âge des 8 ans, au tarif des 40 à 50 euros par personne, suivant l'itinéraire. Et c'est une proposition des Vercors plein air. Les numéros à appeler, si vous voulez réserver, c'est les 06 83 40 83 21. Et ceci n'est pas la seule proposition spéléologique qui vous est faite pour aujourd'hui à Saint-Martin-en-Vercors, car une autre proposition vous est faite par Outdoor Aventure. Et c'est une sortie à la demi-journée. Et Outdoor Aventure vous fait aussi une autre proposition et c'est pour un canyoning découvert au canyon des Lacomanes, du Veyron et au Duver Sud. Les sorties des Outdoor Aventure sont à partir des 50 euros et vous pouvez appeler pour réserver les 06 84 16 88 57. Et de nombreuses activités de pleine nature vous sont proposées à cette période, mais la question se pose aussi de comment la respecter lorsqu'on est ici pour en profiter, pour profiter de la randonnée. Et celle-ci est une des questions que vous pouvez poser à l'éco-garde, que vous pouvez rencontrer tous les lundis, et donc le lundi 24 juillet aussi, à l'office de tourisme de la Chapelle-en-Vercors, entre 9h30 et midi. Et donc vous pouvez rencontrer cette éco-garde et lui poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Et si l'effet d'aller à la rencontre du territoire, mais aussi du territoire vous passionne, vous pouvez vous rendre les lundis 24 juillet au petit marché de Saint-Agnan-en-Vercors à partir des 16h30, où des producteurs locaux vendent leurs produits. Et il y a aussi une animation des prévues, une animation théâtre et musique avec un artiste en solo. Les titres, c'est « Humain des deux mains », spectacle, théâtre et musique. Donc rendez-vous à Saint-Agnan-en-Vercors si vous voulez rencontrer les producteurs qui se réunissent au petit marché pour vous présenter leurs produits et pour les vendre naturellement. Et un autre marché du lundi que nous retrouvons pour cette période d'été est le marché des producteurs et artisans des Ponts-en-Royans, des 17h à 20h, à l'aire des loisirs des Ponts-en-Royans. Et nous restons à Ponts-en-Royans avec l'association Illyria qui propose un spectacle promenade à partir des Ponts-en-Royans au titre « Sur les traces des maquisards, Vercors ». Plusieurs horaires sont proposés à 11h, 16h, 17h, 18h. Et il y a un tarif des groupes pour les adultes, c'est 27 euros à partir des 4 personnes et 25 euros pour les personnes de moins de 18 ans, c'est 22 euros. Donc 27 pour les groupes de 4 personnes, 25 pour les personnes individuelles et 22 pour les moins de 18 ans. À travers ce spectacle en plein air, vous pouvez plonger dans l'histoire du premier maquis français. La proposition est de profiter de ce spectacle après une balade qui vous mènera à un point de vue panoramique qui offre une vue imprenable sur les Vercors, le lieu des événements. Et pour réserver, vous pouvez appeler les 06 50 07 80 64. Et nous continuons à parler des maquis car aujourd'hui, comme tous les jours, vous pouvez voir les films Au cœur de l'orage. Donc aujourd'hui, on parle de l'agenda de 24 juillet pour ceux qui nous écoutent. C'est un film majeur sur les Vercors réalisé par Jean-Paul Deschanois à partir d'images filmées au maquis et des reconstitutions. La projection est à 10h30 au musée départemental de la Résistance où nous nous trouvons aujourd'hui. Et la vision du film est incluse dans les tarifs d'entrée au musée. Et puis nous restons ici au musée départemental de la Résistance pour une deuxième proposition pour ce lundi 24 juillet. Il s'agit d'un atelier autour d'objets. À partir d'objets d'époque, il vous est proposé une découverte ludique de l'histoire et une évocation du parcours des résistants et résistantes. Et c'est à 15h30, cela s'adresse aux enfants entre 8 et 15 ans et les tarifs sont à partir de 3,50 €. Et vous pouvez profiter de votre visite au musée départemental de la Résistance pour visiter l'expo Libre Résistance qui est disponible à ce moment. Et on a l'honneur d'avoir ici Connie Becker qui est commissaire, mais elle va vous dire que commissaire, c'est peut-être pas les mots, et qui est là pour nous parler de cette exposition. Bienvenue.
Bonjour. Oui, en fait, je suis commissaire d'expo, comme on dit en français. Mais moi, je préfère le mot curatrice, qu'on implique beaucoup dans le monde d'art contemporain, comme on fait en allemand ou comme on fait en anglais. Et ça vient du mot latin « curare ». Et donc, prendre soin. Et je prends soin de l'expo, des artistes et des œuvres d'art. Et je trouve que ça, c'est vraiment ce que je fais. Oui.
Et donc, pour préparer cette exposition, vous avez pris soin de deux artistes en particulier. Deux artistes
allemandes, oui. Et deux artistes, en fait, pas deux artistes allemandes, deux artistes qui habitent à Berlin, mais Hanna Goldstein, elle est suédoise. Elle habite depuis plusieurs années à Berlin. Et Claudia Walsters, qui est allemande. Et les deux, ils travaillent en duo. C'est des artistes qui travaillent principalement en photo, mais aussi beaucoup avec des collages. Et je viens juste de terminer une visite guidée, c'est pour ça que ma voix elle est un peu cassée. Et donc, en fait, ils travaillent en photo, mais comme je dis aussi en collage, et cette manière d'utiliser collage, comme je dis aussi dans la visite, ça se voit aussi dans les photos parce que les photos sont aussi composées en plusieurs couches. Et vous avez peut-être aussi déjà vu l'affiche de l'expo qui est un peu partout dans le Vercors. C'est une femme qui est en robe fleurie, qui est en plus habillée avec une capuche, une veste à capuche, excusez-moi. Et donc, on voit à la fois que c'est une femme avec cette, cette robe fleurie, et après cette veste à capuche, ça amène une autre dimension. C'est très contemporain, en fait, on connaît ça de manifestations. Quand on a la capuche sur la tête, on n'est pas identifiable, on est un peu caché. Et donc, il y a ce côté de résistance où, bien sûr, tout le monde était aussi plus ou moins caché, et à côté d'être visible. Donc, il est transporté avec cette photo. Et troisième élément de cette photo, c'est une carte de Vercors en trois dimensions qu'il est mis dans la robe, dans le haut de la robe, qui protège la poitrine comme le Vercors, il a protégé les résistants. Et donc, voilà, on peut voir cette image comme personnification de la résistance féminine. Et c'est de quoi l'expo parle, de la résistance féminine, les femmes dans la résistance. Les artistes, ils font honneur aux femmes qui ont fait des petites choses, des grandes choses, mais qui n'ont pas forcément porté des armes. Et donc, ils demandent plus ou moins de repenser à notre définition de la résistance, parce que ce n'est pas que lié à la résistance militaire. Il y a aussi la résistance civile, et dont des femmes, elles ont beaucoup fait.
Et comme vous l'avez dit au cours de cette visite, plusieurs photos comme celle où on voit une veste à capuche nous ramènent à notre temps, à la contemporanéité, parce que la démarche artistique ne veut pas forcément nous amener en arrière, elle veut nous permettre de nous incarner dans ces figures féminines de la résistance.
Oui, c'est ça, en fait. Justement, au contraire de l'expo permanente du musée, où il y a plusieurs objets, même habits de l'époque, les artistes, ils sont vraiment dans un langage contemporain. Donc, il n'y a pas cette distance dans le temps. En fait, on se sent dans l'actuel, mais à la fois, ces artistes, ils parlent du passé. Et c'est un peu comme la mémoire aussi, qui est actuelle, mais ça parle de quelque chose qui est passé. Et donc, ces artistes, ils essayent de réincarner ces femmes, mais ils veulent pas jouer des rôles de théâtre, mais voilà, de donner une impression d'une expérience, peut-être aussi qu'on pourrait nous imaginer d'être à la place de ces femmes qu'on connaît pas, et plusieurs qu'on va jamais connaître, parce qu'il y a pas de traces. C'était des actions qui ont été même des fois importantes, mais personne s'est rendu compte dans le moment. Discrètes aussi, souvent, et aussi les femmes, elles ont été discrètes. Et donc, ils ne sont pas mis en avant, ils n'ont pas demandé une médaille d'honneur pour leurs actes. Et donc, ils sont oubliés, et ces femmes oubliées, ces lacunes dans les archives, moi, je propose qu'ils peuvent être remplis avec de l'art contemporain, pour justement créer une mémoire collective avec des images créées par les artistes, mais à propos de ces femmes oubliées.
Et Pierre Luyfillet, c'est la première fois que le musée de la Résistance travaille avec des artistes qui portent l'art contemporain au milieu du dispositif muséal.
Oui, tout à fait. Pour nous, c'était une expérience complètement nouvelle à plusieurs titres. Tout d'abord, en effet, c'est la première fois que nous avions le plaisir de travailler avec une exposition d'art contemporain. Donc ça, c'était en soi une nouveauté. Également, plusieurs nouveautés, le fait de travailler sur la question des femmes en résistance. Il y a un volet historique qui est proposé en extérieur, j'en dirai deux mots. Et puis, autre nouveauté, c'est le fait aussi de s'intéresser à travers l'exposition d'art contemporain, de s'intéresser également à la résistance allemande, puisque parmi les personnes qui sont évoquées dans l'exposition, il y a Anne-Dore Leber, qui était une résistante allemande. Donc voilà, l'art contemporain, la résistance féminine, la résistance allemande. C'était vraiment pour nous une exposition qui nous a permis d'investir des champs complètement, complètement nouveaux. Je complète en effet ce qu'indiquait Connie. En extérieur, nous, on a un volet plus historique, peut-être plus classique pour le musée de la résistance, mais qui permet aussi de resituer cette question dans une temporalité mémorielle et historiographique, c'est-à-dire on se rend compte, on sait aujourd'hui le rôle important que les femmes ont joué dans la résistance, pas nécessairement toujours ou assez peu finalement dans la résistance militaire, mais plutôt dans la résistance civile qui était essentielle à l'existence d'un maquis pour ce qui concerne le Vercors. Et pourtant, ces femmes ont longtemps été, le rôle de ces femmes a longtemps été occulté, à l'exception de quelques-unes d'entre elles. Donc on a des textes introductifs qui posent un peu ce contexte historiographique, qui rappellent pourquoi est-ce que les femmes, finalement, après-guerre, le rôle des femmes dans la résistance a été largement sous-estimé, et puis comment, à partir des années 70, et plus encore aujourd'hui, ce rôle est complètement réévalué. Et donc pour incarner un petit peu cette réalité, on propose 12 portraits de femmes en extérieur. Alors, 12, c'est très peu au regard du nombre de femmes qui se sont investies dans la résistance. Mais voilà, on a fait une sélection de 12 portraits qui évoquent la diversité aussi des profils de ces femmes qui ont œuvré activement dans le Vercors résistant.
Et donc la démarche, c'est à la fois historiographique de connaître plus et artistique pour ressentir des choses et pour pouvoir aussi se mettre à la place. Un autre aspect intéressant de cette exposition, c'est que, comme Pierre-Louis vient de le dire, il y a des figures de la résistance allemande, mais il y a aussi une attention au territoire, et notamment des cartes qui sont prises en photo pour nous plonger en plein cœur du Vercors. Donc il y a des allers-retours entre le Vercors et d'autres territoires qui ont été des territoires aussi de la résistance.
Oui, en fait, dans l'expo d'art contemporain, Libre Résistance, on a une partie qui est dédiée à la résistance dans le Vercors. Du coup, on voit les roches, on voit les falaises, et on voit la nature des arbres qui sont comme des témoins de l'histoire, qui n'ont été jamais mis en valeur, mais bon, voilà. Voilà. Peut-être pas forcément nécessaire, en tout cas pas en comparaison avec les femmes. Et, mais aussi, cette comparaison que c'était des témoins qui ont été oubliés dans l'histoire. Et donc, les femmes, on a quand même mis en avant maintenant. Et l'autre lieu, c'est Paris. En fait, on ne le voit pas trop dans l'expo, mais il y a une résistante, Yvonne Audin, qui était résistante à Paris. Mais de Paris, on ne voit pas dans l'expo, mais cette femme, une bibliothécaire avant-gardiste, elle était bibliothécaire au Musée de l'Homme. Et en fait, dans sa bibliothèque, c'était aussi un lieu de rencontre, de conspiration. Et le réseau de Musée de l'Homme est connu aussi comme réseau de la résistance. De première heure. Et justement aussi, le terme résistance, il est apparu aussi là la première fois, parce que Yvonne Audin et ses collègues, Boris Bildé et Anatole Divisky, ils ont travaillé sur une revue pour donner des infos sur la résistance. Et justement, cette revue, elle a été nommée Résistance aussi grâce à Yvonne Audin qui a eu en tête une protestante qui était emprisonnée et qui l'a gravé dans un mur résister. Et justement, en fait, ce notion protestant, c'est peut-être aussi sûrement quelque chose qui a joué un rôle pour elle, qui est devenue résistante, mais aussi qui est devenue bibliothécaire avant-gardiste dans un esprit américain pour justement aussi ouvrir les bibliothèques au peuple, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là en France, quand elle a commencé de travailler dans les années 20-30, quand voilà, tout était plutôt pour des chercheurs, mais voilà, c'était pour une élite. Et c'était pas pour que le peuple pourrait consulter des livres. Et donc, il y avait cette petite histoire que j'ai racontée pendant la visite guidée. Apparemment, elle a changé encore plus ou moins dernière minute des plans du musée, du nouveau musée de l'homme, pour avoir le dernier étage pour la bibliothèque, parce qu'elle voudrait avoir la terrasse et pour avoir beaucoup de lumière, pour avoir une bibliothèque qui est lumineuse, qui est agréable à consulter et qui est ouverte à tout le monde. Donc c'était une femme, oui, très humaniste. Et du coup, la résistance, pour elle, c'était aussi quelque chose qui, voilà, qui faisait du sens.
Pour compléter ce que dit Connie, la particularité d'Yvonne Audon, c'est qu'elle était drômoise d'origine et elle est enterrée dans la Drôme, non loin de Die, à Minglon. Également, deux autres actions ou activités à évoquer autour de cette figure d'Yvonne Audon. Il y a une bande dessinée qui s'appelle « Des vivants » qui a été récemment publiée justement sur le réseau du Musée de l'Homme, hein, qui est un des tout premiers réseaux de résistance en France dès 1940. Donc cette bande dessinée a été publiée et la librairie Les Espelines, qui est voisine du Musée de la Résistance, expose un certain nombre de ces planches extraites de cette bande dessinée. Donc une bande dessinée qui permet donc de découvrir le réseau, mais également Yvonne Audon. Et puis deuxième événement à signaler, on a eu le plaisir de travailler cet été avec Véronique Joly et le Théâtre des Apatrides, qui propose un spectacle immersif sur le parcours d'Yvonne Audon. Donc deux de ces spectacles ont déjà été joués donc pour le 50e anniversaire du musée, pour le week-end du 21-23 juillet. Et il y a une nouvelle date qui est proposée, ce sera le dimanche 13 août, où Véronique Joly rejouera pour une troisième fois son spectacle qui s'appelle Yvonne Audon, l'école du Far West, et qui revient sur la double dimension de la vie d'Yvonne Audon qu'évoquait Connie, à la fois la bibliothécaire avant-gardiste au sein du réseau du Musée de l'Homme, et puis la résistante emprisonnée.
Finalement, il y a un trait d'union entre cette figure importante de la résistance et sa démarche pour rendre la connaissance accessible, et la démarche qui est celle du musée de rendre la connaissance et aussi la participation au sentiment de la résistance accessible à un plus grand public.
Et pour compléter ce que vous dites s'agissant de le fait de rendre accessible la connaissance, même si on n'évoque pas cet aspect-là, Yvonne Audon a aussi une particularité, c'est qu'après-guerre, en tant que bibliothécaire, elle va impulser à l'échelle de la Drôme ce qu'on a appelé le bibliobus, c'est-à-dire le fait de remplir un camion de livres, lequel camion sillonnait les différents villages de l'arrière-pays drômois et permettait ainsi aux enfants d'avoir accès à des ouvrages. Et c'est quelque chose qui a perduré assez longtemps, et cette idée un peu avant-gardiste, encore une fois, on la doit aussi à Yvonne Audon.
Et c'est très important de mettre en avant ces figures des femmes.
Oui, et en fait, vu qu'on a parlé de plusieurs endroits qui jouent un rôle dans l'expo, on a du coup le Vercors, le Dibois et Paris avec Yvonne Audon. Et le troisième lieu, c'est l'Allemagne, en fait. Donc, comme on a déjà dit tout au début. Et c'est parce que les artistes, Hanna Goldstein et Claudia Balzers, ils sont... ils ont fait des recherches sur Anne Dorolieba, une résistante berlinoise qui justement, comme Yvonne Audon, a eu une grande affinité aux livres, et elle était résistante pendant la guerre, plutôt discrète aussi, parce que son mari, elle était une résistante très connue, Julius Leber. Il était politicien de la SPD, la partie social-démocrate allemand, et du coup lui, il ne pouvait plus travailler comme politicien, parce que voilà, c'était l'opposition qu'il a eu beaucoup de répression, et il était très vite impressionné aussi, et Anne Dore, qui n'était pas impressionnée, mais voilà, elle a eu deux enfants, elle a essayé, elle a lutté pour le libérée de prison et elle est arrivée de libérer, mais elle, du coup, elle a fait tout, elle a nourri les enfants, elle était couturière. Et après, après la libération de son mari, ils ont travaillé, en fait, ils ont ouvert une boutique, ou en fait, une magasin de charbon. Pour travailler, parce que c'était plus possible de travailler comme politicien. Mais ce lieu-là, c'était un lieu de rencontre pour plusieurs groupes de résistants. Du coup, elle était aussi là, dans le cœur de plusieurs groupes de la résistance allemande. Et en fait, là aussi, les résistants, qu'ils ont planifié un attentat contre Hitler, ils sont retrouvés, Julius Leber, justement, il faisait partie de ce attentat qui finalement, ils n'ont pas réussi à tuer Hitler. Mais c'était le 20 juillet 1944, du coup un jour avant, il y avait le bombardement à Vassieux et ce... voilà ce Julius Leber qui était dans ce complot. Il était assassiné par les nazis. Et Anne Dorelé, après-guerre, a fondé une maison d'édition pour justement parler des résistants et de travailler contre l'oubli. Et aussi, comme Yvonne Audon, d'être dans l'éducation populaire, si on veut, parce que voilà, il y avait beaucoup d'Allemands qui ne savaient pas qu'il y avait une résistance, ou même plusieurs groupes de résistants, et qu'ils ont... Voilà, c'était pour en parler, pour que ces hommes et femmes ne se retrouvent pas à l'oubli. Et c'est une grande... Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on doit à nos doigts libres, et c'est pas rien.
Pour compléter ce que dit Connie, effectivement, tout l'intérêt, je l'ai rappelé, hein, de cette exposition, c'est aussi de mettre un peu en lumière la question de la résistance en Allemagne. Ça a un sens aussi pour nous, parce que le musée de la résistance a un projet de refonte et d'extension de son parcours muséographique. Et la volonté, c'est vraiment de partir de cette histoire locale, l'histoire du Vercors résistant, pour l'inscrire dans des perspectives beaucoup plus larges à l'échelle nationale et européenne, et notamment faire davantage écho qu'on ne le fait aujourd'hui à tous ces mouvements de résistance, notamment la résistance allemande. Connie l'indiquait, la tentative d'attentat ratée contre Hitler, c'est le 20 juillet 1944. Donc l'œuvre de la résistance allemande, et le lendemain, c'est le début de l'offensive allemande contre le maquis du Vercors et du Vercors résistant. Et la mise en perspective de ces deux dates, ça donne vraiment aussi une dimension bien supérieure à ce qu'on connaît habituellement. Et pour aller plus avant dans cette question de la résistance allemande, je reviens donc toujours au week-end d'animation qui sera organisé les 12 et 13 août prochains au Musée de la Résistance. On projette donc à 18h30 le dimanche 13 août le film Sophie Scholl, Les Derniers Jours, qui revient donc sur le rôle de cette résistante féminine et de son frère, hein, puisque les deux faisaient partie d'un réseau de résistance allemande, hein, le réseau de la Rose Blanche, qui va être démantelé. Et les deux, donc Sophie Scholl et son frère Hans, vont être exécutés, guillotinés exactement en 1943. Voilà, donc un film qui retrace et qui évoque une figure, alors qui est plutôt bien connue, hein, mais une figure importante de la résistance allemande.
Merci. Et juste, il y a un élément qui est très important dans l'expo, sur lequel on ne s'est pas arrêté. Vous l'avez dit, Anne Dorelé, elle était couturière pendant la guerre, et puis elle a fondé une maison d'édition. Il y a la question de la couture et du fait de coudre qui est mis en avant dans votre exposition.
Oui, en fait, il y a plusieurs liens entre... Et les deux résistants, Yvonne Audon et Anne Dorelé, mais aussi des artistes qui travaillent beaucoup avec des tissus, surtout en parlant des femmes et des actes de la résistance. Ils travaillent avec un tissu qui est léger, qui est élégant, Et en fait, c'est un peu pour parler des femmes, parce que c'est plutôt les femmes qui sont élégantes, discrètes, légères, fines. Mais Anadora Oliva, justement, elle était couturière. On voit aussi une photo où les deux enfants, ils ont remis en scène avec des grands plans pour faire de la couture. Et Yvonne Audin, elle était emprisonnée à Paris. Et en fait, elle a écrit plusieurs messages clandestins sur des mouchoirs en tissu très fin qu'elle a cousu dans l'ourlet de sa jupe pour les cacher, et que sa sœur qui venait chaque semaine pour chercher sa robe pour la laver pourrait avoir ces infos, ces petits messages qui ont été écrits pour encore alarmer des gens et de résister encore même s'il était emprisonné.
Et donc un travail photographique très intéressant et visible dans cette expo autour de ces messages qui étaient cousus dans l'ourlet. Merci beaucoup, Connie Becker.
Merci.
Merci. Nous allons retrouver Pierre Luffier pour un deuxième moment dans cette émission. Et on ne peut que vous inviter à venir voir cette expo qui est très, très inspirante, ainsi que toute l'installation extérieure autour des femmes. Naturellement, il a l'exposition permanente, mais ça, on va revenir tout à l'heure. Et pour le moment, moi, je vais rappeler et encore remercier nos partenaires qui nous permettent cette émission. Donc, ce sont le Musée de l'eau à Pont-en-Royans, le Grand Séchoir, la Maison du Pays de la Noix à Vinay, la Maison Musée des Rochers Chinards, les Mémorials de la Résistance à Vassieux-en-Vercors, le Musée de la Pressoire du Vercors, les Musées de la Résistance à Vassieux où nous trouvons aujourd'hui, les Jardins des Fontaines Pétrifiantes à La Saône, la Grotte de Thaïs et le Bateau à Roues à Saint-Nazaire en Royan, la Grotte des Choranges, le Festival Textinlaire à Saint-Antoine-de-l'Abbaye, le Festival des Chapelles à Royan-Vercors, l'Office du Tourisme Vercordrome et Indians Valley à Beauregard-Barré. Merci beaucoup à tous ces partenaires. Et là, nous allons nous concentrer sur un partenaire en particulier, c'est les Jardins des Fontaines Pétrifiantes à La Saône. On écoute.
Chronique touristique au Jardin des Fontaines Pétrifiantes à La Saône. Une visite guidée par Magali, chef jardinière du site.
Quand le visiteur entre dans le jardin, on lui donne un guide pratique de visite avec un plan du jardin. Bien sûr, des informations sur l'histoire, sur le fonctionnement du jardin au cours des saisons, et puis une liste de plantes. Et les numéros que nous voyons face à nous, ils vont les retrouver et pouvoir nommer la plante.
Alors des thèmes au gré des massifs, là on est plus effectivement dans les plantes de sorcières. Il y a malgré tout aussi une composition de couleurs que vous aimez agencer dans le parcours du jardin, donner une certaine progression, des regroupements.
Eh bien il va y avoir, suivant l'inspiration, il va y avoir des massifs très colorés. Et puis d'autres où on va reposer l'œil du visiteur, en fait. Il ne faudrait pas qu'on passe d'une couleur vive à une autre couleur vive. Donc là, en fond de massif, c'est ce feuillage rose vif que l'on voit, là, qui ponctue le massif, c'est l'irésine. C'est très intéressant. Vraiment, là, avec le soleil, ça fait un jeu de rose et de pourpre très, très joli. Et du coup, ça ponctue notre massif. Et derrière, on voit les yucca avec leur bleu mat qui... Ça commode très bien du rose des irésines. Et puis devant, eh bien, on est plus dans des tons de vert, vert panaché, vert clair, vert plus foncé, et puis des petites touches de couleur.
Est-ce que vous dessinez parfois pour vous rendre compte après de ce que cela peut représenter? Vous faites un peu des schémas aussi?
Oui, en fait, dessiner, je pense que c'est obligatoire. Même si on dessine mal, comme moi, c'est important effectivement de dessiner le massif, d'avoir le volume du massif, les proportions, de savoir si on va le voir de tous les côtés ou juste d'un côté. Est-ce qu'on va être en trois dimensions ? Est-ce que les gens vont entrer à l'intérieur ? Comme ici devant nous, il y a un petit chemin qui passe à l'intérieur du massif, donc il va être vu de différents côtés et le dessin aide vraiment à ça. C'est-à-dire qu'on va faire un dessin vu du figuier, le dessin vu de l'arbre à balai, et on va comme ça pouvoir vraiment construire un massif pour qu'il soit tout au long des saisons intéressant, que les floraisons se succèdent, et puis faire attention aux couleurs, très important, et puis bien sûr faire attention à ce que quand les gens cheminent, il y ait quelque chose d'intéressant à voir à chaque fois, qu'ils arrivent dans un sens ou dans l'autre. Donc le dessin, oui, est très important.
À suivre cette chronique touristique au Jardin des Fontaines Pétrifiantes à la Saône, en compagnie de Magali, chef jardinière du site.
C'était notre chronique touristique Jardin des Fontaines Pétrifiantes à la Saône. Et donc au Jardin des Fontaines Pétrifiantes, vous pouvez donc observer ces phénomènes de pétrification de l'eau. Et d'autres occasions de voir le pouvoir de l'eau vous sont proposées sur notre territoire, en particulier à la grotte des Chouranches, où vous pouvez voir tout ce que l'eau peut faire lorsqu'elle traverse un massif calcaire pour former des cavités et créer des concrétions. Comme tous les jours à cette période, vous pouvez visiter la grotte entre 9h45 et 18h. Chaque visite dure au moins une heure. Et pour en savoir plus sur les tarifs et pour réserver, vous pouvez vous rendre sur les sites internet www.visite-du-haut-nature-du-haut-vercors.com. Et nous continuons à parler des grottes parce que la grotte de la Luire à Saint-Aignan-en-Vercors est également ouverte tous les jours en cette période d'été. Aujourd'hui, vous pouvez profiter d'une visite guidée tous les 45 minutes entre 10h30 et 16h30. La grotte de la Luire est à la fois le lieu d'un mystère hydrogéologique avec des résurgences d'eau, mais aussi un lieu de mémoire, et plus précisément la mémoire de l'attaque allemande qui a frappé l'hôpital de la Résistance et qui s'était abrité dans son porche les 27 juillet 1944. Et donc ça, c'est pour les 27 juillet 1944, et on parle maintenant du 25 juillet 1944, parce que mardi 25 juillet est aussi une journée consacrée à la mémoire de la Résistance, avec deux cérémonies de commémoration des prévues, dans les Royans et dans le Vercors. Il y a une cérémonie commémorative à la chapelle en Vercors. D'abord une messe à 9h30, une messe en souvenir à l'église, et à 10h30 un regroupement devant la mairie, un déplacement, une cérémonie et un dépôt des gerbes au monument aux morts ainsi qu'à la cour de fusillés. Donc on peut revenir avec Pierre-Louis Fuyer sur cette histoire des fusillés de la chapelle en Vercors.
Oui, rapidement, donc les combats démarrent dans le Vercors le 21 juillet sur plusieurs fronts. Le 23 juillet, c'est la fin des combats côté Vercors résistant, puisqu'on a compris que l'avantage avait été pris par les troupes allemandes. Et ensuite, les troupes allemandes vont converger. Et donc, le 25 juillet, c'est la date à laquelle les troupes venant de Vassieux et de celles venant des hauts plateaux se retrouvent à la chapelle en Vercors. La population est enfermée dans différents lieux. 16 jeunes hommes sont pris parmi les habitants et vont être exécutés dans des conditions assez épouvantables. Dans la soirée, donc dans la ferme de la cour Albert, qu'on appelle désormais la cour des fusillés. Et la cérémonie du 25 juillet, c'est à la mémoire de ces 16 victimes. Et le gros de la cérémonie, c'est effectivement le passage dans la cour de la ferme Albert.
Et donc, c'est à 9h30 pour la messe, et puis à 10h30 pour les déplacements, et puis pour la cérémonie à la cour des fusillés. Et une autre cérémonie est prévue à 10h au mémorial des Saint-Nazaire à Royan, à la mairie. Et toutes ces cérémonies de commémoration nous font ressentir l'importance des lieux, des mémoires et d'être dans les lieux pour pouvoir se souvenir, pour pouvoir peut-être avoir la curiosité d'en savoir plus et d'approfondir. Et c'est aussi une démarche qui est suivie par les musées de la Résistance où nous nous trouvons aujourd'hui, parce que les musées de la Résistance, tous les mardis, et notamment ce mardi 25 juillet, proposent une visite hors les murs dans les villages de Vassieux-en-Vercors, une visite pour un public à partir des 2 ans.
Oui, tout à fait. C'est une proposition qu'on fait régulièrement avec beaucoup d'intérêt pour les visiteurs, c'est de partir déambuler dans les rues du village de Vassieux et puis découvrir certains lieux un peu importants de son histoire, soit l'histoire liée à l'histoire des camps, le Vercors résistant, soit des lieux liés au drame, notamment il y a quelques stèles qui rappellent un certain nombre de victimes qui ont perdu la vie durant cette période. Et puis il y a aussi un volet important qui concerne la reconstruction du village, puisque le village de Vassieux a été intégralement détruit et anéanti en juillet 1944, reconstruit après-guerre. Donc c'est aussi la question de la reconstruction d'un village. Comment est-ce qu'on reconstruit un village de montagne en 1945-1950? Et puis évidemment les questions mémorielles. Quelles traces visibles, parfois très discrètes, reste-t-il de cette page d'histoire dans le paysage actuel? Que ce soit évidemment des sites comme le Mémorial ou le Musée de la Résistance, mais aussi un certain nombre d'œuvres d'art qui jalonnent aussi le paysage vassivin aujourd'hui. Et puis des fois des lieux qui sont presque des non-lieux de mémoire, malgré leur importance. Il y avait à Vassieux une particularité, c'est que la commune accueillait le plus important terrain d'atterrissage et de parachutage du maquis. Et ce lieu qui est facilement reconnaissable parce que le terrain est extrêmement plat, rien ne le signale aujourd'hui, et donc c'est aussi aller découvrir des lieux peut-être un peu moins connus que nous proposons lors de ces visites hors les murs.
Beaucoup, beaucoup d'importance donnée au lieu, et en même temps, les musées de la Résistance proposent, en proposant des visites hors les murs du village, en complément à l'exposition permanente et à ces expositions temporaires, un aller-retour entre ces lieux de la mémoire et puis l'exposition qui est toujours là. On peut peut-être en dire un peu plus pour ceux et celles qui nous écoutent et qui n'auraient jamais vu. Beaucoup d'attention aux objets dans cette exposition.
Oui, tout à fait, parce que c'est un musée qui a une particularité, qui a été créé par un ancien résistant, Joseph Lapicirella, qui avait participé au combat du Vercors, qui a accumulé beaucoup d'objets pendant plusieurs décennies. Le département de la Drôme a repris ce musée en 1999, l'a rénové en 2010, et le nouveau parti pris muséographique, c'est bien sûr de donner à voir cette histoire du Vercors résistant, de l'inscrire dans des perspectives historiques un peu plus larges, mais aussi, comme vous l'indiquiez, de mettre en avant la richesse des collections de ce musée. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'objets qui sont exposés et qui sont aussi un vecteur important dans nos activités de médiation, puisqu'on a évoqué la médiation par le paysage avec les visites hors les murs. On propose aussi d'autres visites qui prennent cette fois-ci appui sur les objets, les collections, puisqu'aujourd'hui, naturellement, les témoins disparaissent, il n'y a quasiment plus de témoins de ces événements, et l'objet est une forme de témoin, des objets d'époque. Et donc on utilise beaucoup les objets, notamment avec les jeunes, pour faciliter la transmission et la connaissance de cette histoire.
Quel est l'objet qui attire le plus l'attention, notamment auprès des jeunes?
Quel est l'objet? Alors le brassard, ça reste quand même souvent un objet assez emblématique, parce que voilà, c'est un objet très symbolique qui a été repris sur de nombreuses représentations des résistants. L'arme aussi en tant que telle, voilà, il faut aussi rappeler que quoi qu'il en soit, même si on a parfois des difficultés à manipuler l'arme, mais c'est un élément constitutif de l'identité de l'engagement des résistants. C'était un engagement armé. Et puis vous en avez beaucoup d'autres, vous avez les radios, tout ce qui concerne les transmissions radio. C'est tout à fait essentiel de pouvoir être en lien avec la France libre, en lien avec les objets. Et à Vassieux, il y a aussi le conteneur, puisque le conteneur, ce sont les grands objets cylindriques dans lesquels les alliés, avec lesquels les alliés ont envoyé à l'occasion de parachutage des armes au Vercors résistant. Et puis un objet qui vient aussi du ciel, mais qui est cette fois-ci l'objet du malheur, c'est le planeur. Le planeur des FS-230, à bord desquels les Allemands sont arrivés à Vassieux le 21 juillet 1944. Une carcasse se retrouve en extérieur. Voilà, vous me demandiez un objet, je vous en donne 5. Mais quelques exemples des objets un peu forts qui jalonnent le parcours du musée.
Et vous arrivez aussi à mettre des objets en valeur à travers des activités que vous proposez. Je pense notamment à des causeries que vous proposez autour des postes radio et des personnes qui s'est chargée de cette transmission radio.
Exactement. Alors les causeries dont on parle, c'est aussi des causeries qui cette année permettent de pouvoir filer la thématique des femmes en résistance. Puisque donc on a effectivement, durant le week-end, on a proposé un certain nombre de causeries concernant des femmes en résistance et notamment le rôle des opératrices radio dans ces transmissions clandestines essentielles à l'échelle de l'Europe. Hein, c'est essentiel, de manière indispensable, établir des liaisons avec l'ensemble des groupes de résistance situés partout en Europe. Et beaucoup de femmes ont joué un rôle important, notamment à Londres, dans ce vaste dessin qu'étaient les transmissions radio.
Et donc on peut s'intéresser aux objets et en même temps en entendre parler. Il y a des objets aussi dans l'exposition. Je pense notamment à une carte qui est exposée au centre du dispositif de Libérésistance.
Oui, en fait, c'est une installation... dans une vitrine où des artistes ils ont pris une carte de Vercors, mais ils ont repeint la plupart de la carte. Ils ont laissé visibles seulement les chemins et les fleuves. Et ils ont mis dans la vitrine d'une sorte qu'on voit qu'en fait, elle est dépliée, mais elle n'est pas à plat. Du coup, ça évoque aussi... la montagne en soi, parce que voilà, c'est une montagne en schéma, mais c'est aussi une montagne en soi où en fait la carte est dédiée. En fait, le propos c'est la montagne, c'est le Vercors, mais on reconnaît presque rien. Et du coup, c'est aussi ça peut évoquer qu'il fallait avoir la connaissance du Vercors et que justement avoir en tête, et pas forcément avec des cartes, tous ces chemins pour s'orienter dans le Vercors, c'était essentiel quand même pour la résistance dans le temps aussi. Et ce bleu avec lequel les artistes ils ont recouvert la plupart de cette carte, c'est un bleu qui fait un peu penser à un ombre. En fait, c'est pas tout visible, donc comme dans la résistance c'était plutôt caché. Le bleu aussi, c'est un bleu qui fait peut-être référence à un bleu masculin que les artistes féminins ils sont appropriés parce que voilà, elles aiment aussi ce bleu là et c'est pas que le bleu pour les travailleurs, mais ça peut être aussi un bleu pour les femmes. Et donc il y a un côté féministe dans cette expo qui est quand même visible dans plusieurs détails. C'est un propos aussi de voir ces œuvres dans une angle féministe, si vous voulez.
Donc la possibilité de voir l'exposition et la possibilité d'approfondir les rôles des femmes dans la résistance grâce à toutes les activités qui sont proposées dans ces musées de la résistance. Et on retrouvera Pierre-Louis Fillet encore dans un troisième moment. Et pour le moment, on continue à vous proposer des activités pour le mardi 25 juillet. Nous continuons à parler d'histoire avec une proposition du Mémorial de la Résistance à Vassieux-en-Vercors. C'est une conférence sur la reconstruction matérielle et morale du Vercors. Vous avez, Pierre-Louis Fillet, parlé de reconstruction tout à l'heure. Et là, c'est la reconstruction, pas seulement matérielle, qui est visée, parce que pendant des décennies, l'historiographie s'est beaucoup intéressée au combat, au drame, aux destructions. Et la période de la reconstruction reste un pan relativement méconnu et marque encore le quotidien à travers les villages, Saint-Nizet, des Moucherottes, la Chapelle-en-Vercors, Vassieux-en-Vercors. Et surtout, il y a plein d'initiatives dédiées aux familles endeuillées et aux enfants du Vercors ayant vécu des scènes traumatisantes qui attirent l'attention de l'historien du mémorial Julien Guillon et qui propose donc une conférence le 25 juillet. C'est une conférence qui dure une heure et qui s'adresse à un public à partir des 8 ans pour un tarif des 5 euros. Et c'est sur réservation, donc il faut appeler les mémorials de la résistance à Vassaux-en-Vercors. Et nous restons à Vassaux-en-Vercors pour parler des 3 ateliers qui vous sont proposés également les mardis 25 juillet, comme tous les mardis au musée de la Préhistoire. Les premiers ateliers et ceux de l'apprenti archéologue. Après un passage sur les sites archéologiques des tailles des silex, les animateurs vous conduiront à la recherche des vestiges dans un fac-similé des fouilles archéologiques. C'est une activité proposée à partir de 7 ans et c'est des 10h30 à 12h. Et puis un deuxième atelier du mardi apprend à faire naître le feu. En ces temps-là, comment les hommes sans allumettes ni briquets faisaient-ils du feu? Durant cet atelier, vous apprendrez à allumer un feu par friction, à la manière des préhistoriques. Et c'est à partir des 8 ans. Et puis le troisième atelier, proposé les mardis 25 juillet par les musées de la Préhistoire, et c'est du petit meunier de la Préhistoire. Comment fabriquait-on des galettes à la Préhistoire? Mouture du blé à l'aide des meules et des molettes, élaboration de la pâte, façonnage des galettes et cuisson au feu au programme de cet atelier à partir des 4 ans et c'est entre 16h et 17h30. Pour chacun de ces ateliers, les prix est de 10 euros par adulte et 6 euros par enfant. Donc vous entendez un peu d'animation derrière nous parce que les programmes pour cet après-midi 22 juillet, le jour où nous enregistrons cette émission, est très riche et donc il y a du public qui se rend au musée et nous nous en réjouissons. Et nous restons à Vassieux avec nos propositions pour les 25 juillet parce que mardi soir à la librairie Les Espélines, il y aura les spectacles solo mêlant conte, théâtre et musique où se succèdent des personnages hauts en couleur qui funambulent sur les fils verts de l'humanité. C'est un spectacle humain de demain. On vous l'a dit, il sera aussi présent au Petit Marché à Saint-Agnan les lundis 24, mais voilà, vous pouvez les voir dans une forme plus extensive le mardi soir à 20h30 à la librairie Les Espélines des Vassaux-en-Vercors. Est encore une proposition de spectacle pour les mardis 25 juillet au soir et c'est la musique qui est à l'honneur pour le rendez-vous des festivals des chapelles Royan-Vercors à Saint-Agnan-en-Vercors. Le spectacle porte le nom de « Les Douze Seigles invitent Noémie Westfeld, Michael Seigle, violon et Nicolas Seigle, violoncelle, Noémie Westfeld, chanteuse pour des musiques de Martinu, de Falla, Ravel, Gershwin et Schulhoff. Le rendez-vous est à l'église de Saint-Agnan-en-Vercors à 20h30 et les tarifs sont compris entre 8 euros et 13 euros. Et on peut retrouver de la musique encore les 26 juillet à Saint-Antoine de l'Abbaye et il s'agit plus précisément d'un concert qui ouvre le festival Texte en l'air, un festival autour de Mont. Dans ces festivals, théâtre, lecture, pérégrination poétique, concert en plein air, art plastique, conférences, apéro-rencontres, atelier écriture, un festival des mots bousculés, lu, chanté, entrechoqué, mis en espace entre hauts murs, cours et jardins. Et donc pour cette ouverture, vous pouvez profiter du concert du groupe La Meute à 19h30 dans la Grand Cour. C'est gratuit et La Meute est un groupe de spoken word. Donc toute la semaine, vous aurez des extraits agenda qui vont vous permettre de connaître le festival Texte en l'air qui est un partenaire de cette émission. Et donc là, on commence par connaître le programme dédié aux jeunes.
Ça, ce sont des rendez-vous incontournables à Texte en l'air. Le jeune public a toujours été très présent depuis le début. Et donc, il y a des propositions de spectacles au jeune public. La première proposition sera le jeudi avec un spectacle qui s'appelle « Mon nez » de la compagnie Objets Sensibles et qui s'adresse aux tout petits à partir de 2-3 ans. Et c'est, voilà, c'est depuis l'année dernière que nous nous adressons à ce tout jeune public pour aussi proposer des représentations pour les centres aérés qui ont souvent peu de propositions artistiques au moment de l'été. Et donc c'est un petit spectacle de marionnettes basé sur la comptine Pirouette Cacahuète. Il était un petit homme. Et puis sinon nous aurons une autre proposition qui s'appelle La folle allure sur un texte de Christian Bobin qui nous a quittés cette année, grand poète et auteur. Et c'est une toute jeune compagnie grenobloise, la compagnie Sloopy. Et c'est un très joli spectacle avec deux comédiennes, un musicien et aussi des objets, un livre pop-up magnifique. Et donc on va raconter comme ça le trajet d'une vie et qu'est-ce que c'est que petit à petit s'emparer de sa vie et essayer tout le temps de faire quelque chose de sa vie et pas forcément répondre à ce qu'on attendrait de nous. Et la troisième proposition de spectacle, elle s'appelle Nanoulak. Donc là, c'est la compagnie Infini dehors que nous avons déjà accueillie. Et c'est une petite forme qui va nous parler d'une histoire de nature et de métissage entre un ours blanc qui est contraint de quitter son territoire à cause du réchauffement climatique et un ours brun qui fait la même chose, sauf qu'en trajet inverse. Et donc, ces deux ours vont se rencontrer. Et c'est un dispositif très simple avec un conteur et une marionnettiste qui va mouler ces petits ours en direct en même temps qu'elle raconte l'histoire. Et c'est un spectacle jeune public, mais vraiment tout public aussi.
Inspiré d'une histoire réelle, il est indiqué.
Inspiré d'une histoire réelle et tiré de Pister les créatures fabuleuses de Baptiste Morisot. Voilà. Et sinon, l'autre rendez-vous jeune public, c'est un rendez-vous que nous avons les matins. Et là, c'est de la lecture pour les enfants. Donc, il y en aura un le vendredi matin qui s'appelle Abribus. Donc, ce sont des lecteurs amateurs dirigés par un professionnel qui vont lire un texte jeunesse, du répertoire jeunesse. Il y en aura un également le samedi matin, Au-delà de la forêt, et également un le dimanche matin. Celui-là sera pris en charge par les Tréteaux de la Cumane, donc compagnie amateur bien connue sur le territoire et qui est très souvent partenaire du Festival Texte en l'air.
Et donc toutes ces propositions théâtre qui sont retrouvées dans ces festivals Texte en l'air, et ça nous donne aussi l'occasion de revenir avec Pierre-Louis Fillet sur cette démarche d'amener du théâtre dans les propositions du musée, et donc d'amener du théâtre à un public qui s'intéresse à l'histoire de la résistance.
Oui, qui s'intéresse à l'histoire de la résistance ou pas, parce qu'effectivement, le fait partie de proposition qu'on fait tout au long de l'été avec l'idée, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les commémorations, le musée est le lieu qui donne à voir l'histoire de la résistance, mais pour toucher un public le plus large possible dans un travail de mémoire qu'on conduit inlassablement, on a aussi l'envie et la vocation d'élargir le type d'animation qu'on propose. Donc bien sûr, on évoque les causeries, les visites guidées, mais on propose également des déambulations musicales et une pièce de théâtre, spectacle immersif, qui sera donc joué trois fois cet été, et notamment le 13 août. C'est vraiment important pour nous de pouvoir capter des publics qui ne viendraient pas spontanément visiter le musée de la Résistance, mais qui parfois, venant assister à une pièce de théâtre, peuvent découvrir une histoire. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est d'élargir le spectre de ce que l'on propose pour faciliter ce travail de transmission, notamment auprès des plus jeunes générations. Donc on essaye toujours d'embrasser le champ le plus large possible dans le type d'activité, mais aussi dans le profil des intervenants qu'on convie au musée.
Donc rendez-vous pour voir cette pièce au mois d'août. Et Conny Becker, vous avez pu suivre les travaux de constitution de ces spectacles des plus près.
Oui, parce que justement, j'ai parlé pendant la visite guidée, même pas encore là aux radios, d'un groupe Matrimoine en Divois dont j'ai fait partie. Et ce groupe-là, il cherche de visibiliser l'héritage féminin, dont aussi on a œuvré beaucoup sur Yvonne Audon. Et avec l'historienne Gudrun Mattes, qui a fait des recherches, et grâce à elle aussi, les artistes, ils ont ils ont découvert, ils vont nous lancer cette résistance. Et aussi, Véronique Joly, justement, qui a mis en œuvre cette pièce de théâtre, elle a découvert cette histoire. Et voilà, donc, moi, j'ai fait connaissance avec Véronique Joly grâce à un événement de matrimoine en Diwa l'année dernière pour commémorer l'anniversaire et la mort de Yvon Nodon, parce qu'il y avait les deux anniversaires l'année dernière. Et donc, j'ai aussi accueilli Véronique Joly avec son groupe des trois femmes chez Dear Residence, une résidence d'artistes, normalement pour les artistes plasticiens, mais justement parce que voilà, ils ont besoin encore un lieu pour répéter. Ils ont fait une mini résidence d'une semaine à peu près chez moi, chez Dear Residence, et c'est Adi. J'ai entendu que j'ai le droit de vous inviter à la fin de la mission au prochain événement qu'on a chez The Residence. Et c'est une exposition avec son vernissage le 5 août, le samedi 5 août, à partir de 19h. Et c'est une exposition de gouache et aquarelle de Caroline Christiaki, également une berlinoise. Qui fait des abstractions tout à fait différentes du projet de l'expo Livre Résistance, mais avec un bleu un peu pareil. Et donc, bienvenue Adi le 5 août chez The Residence.
Pour continuer ce voyage entre différents arts, théâtre, art contemporain et puis la rencontre avec l'histoire des femmes qui est portée par le spectacle de théâtre, l'histoire des femmes dans la résistance à travers toutes les causeries proposées par les musées. Et maintenant, on continue à parler des mémoires, même si ce n'est pas l'histoire de la résistance qui est à l'honneur, pour notre visite à la Maison-Musée des Rochechinards. On écoute notre deuxième chronique touristique.
Chronique touristique à la Maison-Musée du Royan à Rochechinard. Découverte de l'exposition permanente avec Alain Derby.
Ensuite, tout près de la porte, on trouvait un pôle féminin par contre, plus près de la porte. C'était là que la mère arrivait, la maîtresse de maison, avec ses seaux de lait, avec ses légumes, avec tout ce qu'elle avait à faire. C'est là qu'elle travaillait ses fromages. Bon, autrefois, donc avant 1870, du fromage de chèvre uniquement. Et après, lorsqu'il y a eu la circulation avec le Vercors, bien sûr, un mélange de lait de chèvre et de lait de vache pour faire le Saint-Marcellin, hein, qui était vendu sur le marché. Ensuite, dans l'angle face à la porte, nous sommes entrés il y a 5 minutes, normalement, on devrait trouver un lit. Il n'y est pas, bien sûr, parce que c'est trop petit. C'est le lit du maître de maison et de sa femme, face à la porte d'entrée. Parce qu'il faut qu'en cas d'incendie de la maison, on puisse vite sortir pour aller alerter, chercher de l'eau. Mais aussi, si c'est le voisin qui a des ennuis, qu'on puisse, durant la nuit, sortir. Et puis il y a aussi, j'ai des tas de belles histoires à ce sujet, tout ce qu'on appelait les errants, les gens qui cherchaient du travail, les vagabonds, on dirait aujourd'hui, on leur devait, comme vous le savez, assistance. Hein. Donc sous ces porches, ils pouvaient arriver et donc frapper, la nuit, on se devait de leur servir un peu d'eau ou quelque chose, et ils dormaient en général sous ce porche-là. Voilà, donc ce lit, c'est là que va vivre le ménage qui s'installe, et c'est là aussi que l'on va venir mourir. Après avoir passé par la pièce qui se trouve derrière, où on va aller dans quelques instants, ça c'est la pièce des gens en action. Les gens, soit ne pouvant pas travailler parce qu'ils sont trop jeunes, soit ne pouvant plus trop travailler étant fragiles, sont dans cette deuxième pièce qui, bon, c'est pas le cas dans cette maison, est normalement au dos de la plaque de cheminée. De façon, c'est un coin chaud, comme propre, sain, ainsi de suite. Et donc, c'est là que vont vivre ces personnes âgées. Là, la grande porte d'entrée, elle est toujours ouverte, puis ça permet de la cheminée de tirer, parce que la cheminée, elle fume. Voilà. On va passer dans la pièce d'à côté. Alors, déjà, l'odeur est différente. Ça sort plus frais. Et c'est un lieu féminin aussi. C'est-à-dire que la plaque de cheminée est là. Elle y est pas dans notre cas. Elle va chauffer. Nous sommes ici sur plancher aussi. On va chauffer. Qui vit ici ? Ben, les mannequins qui représentent sont là pour nous le dire. Les grands-mères. Les grands-mères, c'est un lieu féminin. Un homme doit très peu rentrer ici. C'est ici qu'est conservé le linge, c'est ici que sont conservés dans ces armoires là que nous avons deux belles, eh bien ces armoires, le linge, les papiers de famille, l'argent, les quelques choses importantes que l'on peut avoir, on ne peut pas parler de bijoux, mais des choses un peu importantes, et surtout les papiers de famille, les documents qui dorment dans le linge, et puis aussi la médication, puisque c'est la pièce la plus saine, et donc il y a une représentation ici de cette médication, avec les préparations, soit campagnardes, hein. Je vous ai parlé des châtaignes, on mange beaucoup des châtaignes, mais châtaignes, il y a un ennui, hein. On ne va pas à la selle autant qu'on voudrait. C'est pour ça qu'ils sont présentés, donc, ces magnifiques clistères qui étaient utilisés, étant donné la consommation importante de châtaignes. Mais on trouve aussi, bien sûr, l'éternelle fleur d'oranger, des pots avec des queues de cerises, de la camomille ou d'autres plantes, éventuellement la fameuse rue. La plante abortive ou un spermicide. On peut trouver aussi des préparations de pharmaciens, hein, avec l'explication, le produit a été suivant ce que le médecin avait demandé, des produits donc préparés. Voilà ces dames qui sont ici, elles gèrent ce lieu, elles s'occupent aussi, donc ça représente ce berceau, on va se rendre près du berceau. La maman ne va rester auprès de son enfant que quelques temps. Jusque ce qu'on appelle le retour des couches, hein. Et retour des couches, elle va aller à la messe très tôt le matin, et on va lui enlever ses péchés qu'elle a eus, hein, de cette naissance. Et mais les bourgeoises pouvaient repartir dans les salons, pouvaient repartir dans la vie. Les paysannes, elles repartaient où ? Au champ. Donc elles vont repartir au champ. Cet enfant, elles vont le laisser à la grand-mère, à la belle-mère. Il va être couché dans cette corbeille qui est en général la fabrication du père, un osier. Dessous, il y a une paillasse qui est en feuille de faillard. Et d'ailleurs, il y a une petite histoire, ça ne se dit plus aujourd'hui, quand quelqu'un attendait un bébé, on disait « Tiens, on l'a vu, il est allé sous les faillards. Ils doivent attendre un enfant.
» À suivre cette chronique touristique à la Maison-Musée de Rochechinard, une visite commentée par Alain Derbier.
Merci Alain pour cette visite de la Maison-Musée de Rochechinard qui va se poursuivre pendant toute la semaine. Merci au Musée de la Résistance à Vassieux. Et beaucoup, beaucoup de remerciements pour Connie Becker qui nous a présenté cette exposition et qui nous l'a fait vivre un peu et qui nous a donné envie de venir et de revenir la voir. Et merci à Pierre Luffier, directeur du musée et historien, qui nous a raconté plein de choses intéressantes et qui va nous faire une dernière invitation pour toutes les activités à venir du musée.
Oui. Donc je donne le programme de... Oui, donc effectivement, le prochain gros week-end d'animation, c'est le week-end du 12-13 août au Musée de la Résistance à Vassieux. Donc avec à la fois des causeries qui permettront de continuer un peu d'explorer différentes figures féminines, de Léa Blin aux infirmières de la Grotte de la Luire. La diffusion d'un documentaire qui traitera cette fois-ci de Rosine Crémieux. La projection du film sur Sophie Scholl, et puis donc le spectacle dont on a beaucoup parlé d'Yvonne Audon, donc le dimanche 13 août à 16h30 au Musée de la Résistance.
Merci beaucoup.
Merci.
Et au revoir à tous nos auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir écoutés. Et surtout, merci à Jean-Claude, qu'on n'a pas nommé au début, mais qui est là pour assurer la technique et qui est bénévole à Radio Royaume Vercors. On les remercie beaucoup. Et un peu plus aujourd'hui, parce que cet enregistrement a été réalisé un samedi. Merci beaucoup, Jean-Claude. Et au revoir.